seulement d'or isolément.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, c'est Jeudi Noir qui commence. Donc, avec José au platine et ses choix musicaux toujours exceptionnels. Là, vous venez d'entendre. Alors, c'est quoi c'est, oui, c'est Isolation, mais une reprise en français d'un morceau de Joy Division par Opéra Multistyle. Donc, c'est un morceau très récent, hein, 2020. Donc, c'est pas les glorieuses des années 1990, mais bon, quand même, il n'y a que 30 ans d'écart. Et donc ce soir, c'est Jeudi Noir qui commence. Et c'est Morane qui va nous présenter un livre qui s'intitule L'Attestation, une expérience d'obéissance de masse, printemps 2020, édité chez Anamosa. Et c'est un livre donc écrit par Théo Boulakia et Nicolas Mario. Et L'Attestation, alors c'est un assez joli titre qui pourrait faire penser à un roman, mais qui en fait renvoie une expérience que vous avez peut-être oubliée, parce que je pense qu'on a tous été un petit peu traumatisés par ce grand moment comique et administratif de notre existence, où il fallait que l'on auto-atteste de notre droit à sortir de chez nous pendant le confinement, à une époque où, pour bon, peut-être des raisons sanitaires et l'ignorance, on pouvait être justifié à établir certaines règles de santé publique. Mais malgré tout, là, en fait, on s'est peut-être au-delà de la, comment dire, de la prudence qui était légitime face à une maladie dont on ignorait alors presque tout. On s'est livré quand même à une espèce de surenchère sécuritaire, autoritaire, de surveillance, qui, après coup, alors évidemment, c'est toujours facile après coup de dire on était complètement débiles, maintenant qu'on en sait davantage, mais qui malgré tout n'a pas manqué d'absurdité et aussi d'une certaine violence répressive. Et donc il y a deux sociologues, c'est ça, ces deux sociologues.
Nicolas Mario est aussi historien.
Ouais, donc Nicolas Mario est en plus historien, qui sont livrés à une étude justement de ce grand moment d'obéissance collective. D'accord. Alors moi, ça m'a fait immédiatement penser à l'expérience de Milgram, mais l'expérience de Milgram, elle était faite justement
en laboratoire
quasiment, et avec des protocoles qui par la suite ont été très critiqués, très très contestés. Alors que là, on avait une espèce d'expérience de masse d'obéissance. Tout le monde obéit d'un coup. Enfin, les gens restent chez eux, ou du moins, on a l'impression que les gens restent chez eux. Et donc voilà, c'est une étude de ça. Donc le bouquin était de 2023.
Oui.
Donc on est vraiment dans l'actualité. Merci Morane, on arrête de parler de livres des années 70. grâce à elle. Et donc c'est toi qui vas nous présenter ce bouquin. Alors qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dedans?
Justement, comme tu disais, c'est assez rare en sociologie, c'est un des premiers trucs qu'on enseigne. On peut pas faire de la sociologie comme on ferait n'importe quelle autre science en laboratoire, on peut pas avoir d'expérience naturelle en sociologie. Et justement, l'intérêt de ce que tu disais, hein, l'intérêt de ce livre, c'est que c'est le sous-titre en fait, une expérience d'obéissance de masse. Et c'est un peu une expérience naturelle d'obéissance de masse, dans le sens où tous les individus, ce qui ont été soumis aux mêmes règles. Voilà. Et on va le voir, ça a eu quelques effets justement assez intéressants, parce que justement les auteurs soulignent que habituellement, même les règles nationales, les individus, ils sont soumis différemment à l'impôt. Voilà, c'est une règle nationale, mais on a quand même 50% de la population française qui n'est pas soumise à l'impôt, etc. Donc,
les impôts directs.
Oui, voilà. Oui, après tout ce qui est TVA, etc., c'est autre chose. Donc, je vais parler de l'impôt sur le revenu notamment, mais voilà. De toute façon, il y a très peu de règles qui s'appliquent de manière aussi totale et brusque pas universelle, mais de manière homogène en fait à toute une population. Donc voilà, c'est une expérience assez intéressante. Et donc le livre soulève plusieurs questionnements. Des questionnements provocateurs, dans le sens où comment est-ce qu'on peut hiérarchiser les questionnements les confinements en termes de dureté, où est-ce qu'il faudrait aller passer son prochain confinement s'il y en a un, donc par rapport à quels critères. Et ce qu'on entend par le confinement a été efficace? Alors, Théo Boulakia et Nicolas Mario sont deux sociologues, donc eux, ils vont pas vraiment se trancher en fait sur la question de l'efficacité du confinement. ils vont quand même en parler en prenant en passant en revue des articles qui sont parus dans Science ou Nature sans en faire eux-mêmes une analyse, quoi. Bon.
Juste attends, une petite question. En fait, le bouquin, il porte sur les données franco-françaises. Ou est-ce que tu as aussi un comparatif un peu international?
Bah, c'est là qu'il est intéressant. Il y a un peu de temps. En réalité, le premier temps du bouquin est consacré à comparaison internationale.
Okay.
Et le deuxième temps, qui est le trois quarts du livre, en fait, sont comparés à l'étude du cas français précisément.
D'accord.
Mais voilà, le livre commence là-dessus, sur des comparaisons internationales, en fait. Avec la production d'indices synthétiques hyper solides et hyper intéressants en s'appuyant sur des données récoltées par d'autres chercheurs ailleurs, notamment ceux de l'université d'Oxford, qui vont hiérarchiser un peu la sévérité des confinements. Donc voilà, alors... le livre est notamment intéressant justement par la méthode qu'il met en place pour analyser ces différentes expériences de confinement. Et justement, un des outils qu'ils utilisent, c'est l'outil de la comparaison, pour comparer à l'international ce qui s'est fait en termes de confinement. Et donc, il y a toute une première partie du livre qui aborde la définition de ce qu'on a appelé confinement, en fait. Et il montre qu'il y a eu un confinement à la française, en fait, qui se rapproche beaucoup de ce qui s'est fait en Italie, mais qui est justement caractérisé par une sévérité assez particulière. Voilà.
Donc, administrative, policière.
Alors, bah voilà, ils explicitent vraiment. C'est très solide à chaque fois leurs analyses. Mmh. Ils explicitent vraiment toutes les variables qu'ils ont retenues pour qualifier le terme de sévérité. Mmh. Et bon, il y en a eu plusieurs. Il y a tout un tas de graphiques que vous pouvez aller voir en ligne aussi, d'ailleurs.
Il y a un site, hein, c'est ça.
Il y a un site. Voilà. Alors, en ayant le livre entre les mains, il y a un QR code pour accéder au site, mais sinon, c'est l'attestation.github.io. Bon, voilà. Si vous tapez l'attestation, vous pourrez le retrouver. Ouais. Et donc la sévérité, elle est mesurée en fonction de plusieurs choses, notamment la verbalisation qui a été mise en place, les moyens déployés et une approche un peu réglementaire, qu'est-ce qui était interdit et qu'est-ce qui était autorisé, tout simplement, en fait. Et les sociologues, en fait, de l'université d'Oxford, eux ont vraiment utilisé, on en parlera peut-être un peu plus après, mais ont utilisé... justement, ces données-là, cette approche-là réglementaire de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit pour établir une hiérarchisation de la sévérité des confinements.
Okay. Et le podium, du coup?
Et ben voilà, on est plutôt pas mal placé.
Bon.
Ouais, en fait, les confinements
j'appelle
les plus.
Ça la France, madame.
Ouais, ben voilà. Non, on est bon. on est juste derrière l'Espagne, en fait, en Europe.
En termes de sévérité
du point de vue réglementaire, avec l'approche réglementaire, mais ils ajoutent qu'en fait, même si on utilise une approche qui s'appuie sur les moyens qui ont été déployés, technologiques, etc., pour de track, etc., de contrôle, en fait, on est quand même toujours bien placé.
Et donc, derrière l'Espagne, toujours, c'est un peu vexant quand même.
Toujours derrière l'Espagne, par contre. Ouais. Mais pas très loin. Pas très loin. En fait, il y a l'Espagne, il y a la France, l'Italie, presque à égalité, parce qu'en fait, le modèle français s'est inspiré du modèle italien, aux côtés de l'Albanie et du Kosovo. Voilà.
Ah oui.
ça c'est les confinements les plus sévères d'Europe. Et parmi ceux qui ont été le moins sévères, toujours avec cette approche réglementaire, on a la Biélorussie.
Ouais.
Quoi. Et puis on a la Suède, l'Islande et la Lituanie. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est plus ou moins sévère en termes réglementaires? Par exemple, on a une gradation en Espagne, donc où le confinement était le plus sévère. L'activité sportive en extérieur était complètement interdite, en fait. Voilà. En France, en Italie, on avait le droit, mais une fois par jour, il fallait justement se munir de la fameuse attestation, qui, alors il y a eu plusieurs moutures d'attestation, mais qui au final devait indiquer l'heure de sortie, le motif du déplacement, et voilà, il y avait le droit à une sortie par jour. Et les activités sportives étaient tolérées, mais dans un périmètre très précis de 3 km. Donc voilà, en Espagne, pas du tout d'autorisation là-dessus. Albanie et Kosovo, pas d'attestation, mais hein, une délimitation aussi du périmètre autorisé, etc., etc. Bon. Et dans les pays où le confinement était moins sévère, comme la Biélorussie, la Suède, etc., en fait, il n'y avait pas vraiment d'interdiction totale de sortie, pas du tout même en fait. Et, ce qu'il y avait comme interdiction, c'est des interdictions de rassemblement, mais les sorties, les périmètres de sortie, etc., n'étaient pas délimités. Donc voilà, on tient le haut du podium et là-dessus, et après il l'explicite un peu plus ensuite par les moyens aussi qui sont utilisés. Alors, eux, ils ont mis en place, Mario et Boulakia, un questionnaire, en fait, qu'ils ont appelé le questionnaire VICO, donc vie confinée, où ils ont eu... donc c'est un questionnaire qui a été déployé et tout le long du confinement, dès le début du confinement quasiment, et où ils ont eu 16 000 répondants, en fait, donc ce qui est quand même assez, assez conséquent. Alors, ils sont assez transparents sur les limites aussi, les limites du questionnaire. Hein. L'échantillon est plutôt représentatif, d'après eux, du point de vue départemental, hein. Du point de vue de l'âge aussi, du point de vue axe politique gauche-droite également. Le biais qu'il y a essentiellement, c'est un biais genré, en fait, qui est assez classique en sciences sociales et pour les questionnaires en ligne comme ça, c'est essentiellement, il y a une surreprésentation des femmes dans le questionnaire et il y a également, de manière assez classique, une surreprésentation des plus diplômés. Voilà. Parce qu'il y a 60% des répondants qui ont un diplôme du supérieur, ce qui n'est pas très représentatif de la population française en tant que telle. Mais bon, voilà, il y a tout un tas de façons de corriger en fait, ces données qui ont été appliquées, qui font que finalement le résultat reste assez, assez pertinent dans son ensemble. Donc voilà, donc il y a un outil qui est utilisé, c'est l'outil de la comparaison, comme on vient de le voir, pour classer la sévérité des confinements, qui a le mérite de... En fait, de dénaturaliser un petit peu les choix politiques qui ont été faits en termes de gestion du confinement. Voilà. Parce que il le rappelle très bien dans le livre, la nécessité des mesures de contrôle et de coercition qui ont été mises en place aurait été liée corrélée en tout cas au degré de désobéissance de la population en fait. Plus il y avait de verbalisation, plus d'après les discours de Castaner à l'époque, ça témoignait en fait d'un moindre respect des règles en fait de la population française. Et moins il y avait de verbalisation, plus on pouvait penser, d'après ce même ministre de l'Intérieur, que les règles étaient plutôt suivies et que les Français jouaient...
C'est tous les baratins sur les Gaulois réfractaires et puis indisciplinés.
Oui, exactement. Les etc., ouais. Bah voilà. Après, eux, ils ont justement repris ces termes-là pour faire une typologie justement des soumissions à du rapport à l'obéissance, en fait. Mais oui, effectivement. Et ils partent un peu de là en disant, est-ce que finalement... la causalité qui est mise en avant par les autorités et le ministre de l'Intérieur notamment sont vraies. Est-ce que la verbalisation notamment témoigne d'un plus ou moins grand respect à l'obéissance, ou est-ce que c'est l'inverse finalement? Est-ce que c'est pas plutôt les moyens déployés qui ont engendré qu'on dissuadait en fait justement les sorties, etc., etc. Et finalement, est-ce que ça a été efficace? Peut-être qu'on peut répondre tout de suite. Est-ce que ça a été efficace? Comme ça, on se débarrasse.
D'un point de vue sanitaire, tu veux dire?
Oui, justement, parce que eux, ils disent, on n'est pas.
Ils se posent la question de savoir si c'est la réglementation trop sévère qui a créé le délit.
Oui, exactement, c'est ça.
C'est un abaissement de la tolérance et puis bim, tout un tas de gens qui se retrouvent délit.
Est-ce qu'il y a beaucoup de verbalisation parce qu'on contrôle particulièrement et parce qu'on verbalise particulièrement en fait et qu'on est tout, on y a une présence policière très forte.
Plus t'interdis déjà, plus tu crées de.
Voilà, c'est un des objets du livre. Donc, le sociologue, il montre qu'effectivement, les hors-la-loi sont créés par les lois en fait. donc oui, il y a beaucoup de choses comme ça où il y avait une allocution d'Emmanuel Macron qui disait que voilà, on était un peuple latin et qu'on pouvait s'attendre à ce qu'on ne respecte pas trop le confinement et qu'il était étonnamment surpris. Bon, voilà. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas eu vraiment de chance qui a été laissée de voir si on était un peuple respectueux ou pas. Parce que finalement, le confinement a été très... très rude dès les premières semaines, en fait, hein, même dès les premiers jours. Et donc, sur la question de l'efficacité, eux, c'est pas leur objet. Et comme ce que tu disais, Michel, ils disaient, c'est peut-être un peu facile, quelques années après, de se dire, on aurait pu faire autrement. Et encore une fois, ils sont pas épidémiologues. La seule chose qu'ils soulignent, c'est que donc, dans ces revues-là, Science, Nature, etc., c'est la définition de confinement qui pose problème, en fait. Parce que quand on prend toutes les mesures liées à ce qu'on nous, on a appelé le confinement, oui, c'est efficace, en fait. L'interdiction des rassemblements, la fermeture des écoles, des crèches, l'empêchement des rassemblements, etc., ça, oui, ça a largement contribué à la limitation de la diffusion du virus. Mais l'incitation à rester chez soi et notamment à ne plus fréquenter les espaces au dehors et les espaces naturels qui étaient donc devenus désertiques, en fait, ça a été très limité. Il y a eu, selon donc, des articles dans ces revues-là, un impact quasi nul, en fait. Donc voilà. Donc ça dépend de ce qu'on appelle confinement.
Voire négatif sur la santé mentale.
Voilà. Moi, ils en parlent un petit peu à la fin du livre, mais voire en termes de santé mentale, effectivement, potentiellement négatif. En tout cas, en termes épidémiologiques, pas d'efficacité sur l'assignation à rester chez soi. Voilà. On a toute une première partie qui compare à l'aide d'une batterie de chiffres, de données, de création d'indices synthétiques qui sont, ça c'est un des mérites du livre, super clair et super bien expliqué. Donc on a toute une partie sur les comparaisons internationales et ils en viennent à conclure que en fait la sévérité du confinement est moins le résultat de bonnes intentions sanitaires que de bonnes vieilles habitudes autoritaires. Peut-être faire une petite pause.
On va lancer un morceau de musique et puis on se retrouve après.
Yeah. Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire.
Et je viens de couper la parole avec Jean-Mathias. À Jean-Mathias, avec un plaisir essentiel. Et ça, voilà, ça bam. Comme ça, parce que sinon, il parle trop longtemps.
Je suis content qu'il y ait des témoins de ce qui vient de se passer.
Nous, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, sauf moi. Et. Il prend Jean-Mathias. Et donc, ce soir, c'est Morane donc, qui nous présente un livre.
Si je peux me permettre, on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Hygiène et Sécurité. C'est un groupe qui s'appelle Le Crabe. C'est un morceau de 2011. Et qui est en rapport avec.
Voilà, il est très mal poli, Jean-Mathias. Enfin bon. Et donc. C'est Morane, ce soir, qui essaie de présenter à ce deux abrutis que nous sommes un livre qui s'intitule L'Attestation, et donc qui a été publié chez Adamosa, et qui étudie un petit peu les causes, les conséquences et les moyens qui ont été déployés pour nous confiner lors de la pandémie de Covid il y a quelques années maintenant. Et donc c'est une espèce de grande expérience in vivo sur l'obéissance.
Exactement. Donc on était resté sur le confinement. La sévérité du confinement a tendance à suivre la pente douce de l'autoritarisme qu'il y a en matière de contrôle et de répression dans les pays d'une manière générale, quoi. Et donc il posait la question à la femme où passer votre prochain confinement. Ça c'est la conclusion de la première partie qui est une FAQ. Et donc ils ont un super graphique que vous pouvez voir en ligne où il y a deux axes. En ordonnée, on a l'excès de mortalité sur la période comparée à la même période les 5 dernières années, et en abscisse, un indice synthétique d'enfermement. En gros, en abscisse, vous avez la sévérité du confinement, et en ordonnée, l'excès de mortalité. Et donc, l'idéal pour passer son prochain confinement, ce serait d'être en bas à gauche, donc un confinement peu sévère, avec peu de surmortalité. Et là-dedans, on a évidemment le Danemark. Bon, le Groenland, c'est un peu particulier, il faudra corriger peut-être les données, mais bon, Taïwan, la Mongolie, la Corée du Sud, Finlande, Norvège, la Biélorussie, la Suède qui est pas mal, l'Estonie, l'Ukraine aussi, voilà. Donc, pour votre prochain confinement, pensez à ces pays. Et effectivement, dans les pays dans lesquels on n'aimerait pas trop aller, il y a par exemple le Salvador qui était très très sévère, mais effectivement avec peu de surmortalité. Et en revanche, des pays comme Chypre, le Pérou, l'Italie, l'Espagne, où il y avait beaucoup de surmortalité et un confinement extrêmement strict. Avec la France, pas si loin que ça derrière, en fait.
Y compris en termes de mortalité ?
Y compris en termes de mortalité. Donc la surmortalité est moins importante qu'en Italie, assez largement moins importante qu'en Italie, mais pas beaucoup moins qu'au Royaume-Uni, qui pourtant avait un confinement beaucoup moins strict, par exemple. Voilà. La première partie est consacrée aux comparaisons internationales, comme ça, et il rentre ensuite vraiment dans tout le reste du livre sur le cas français, du confinement. Ils essayent d'expliquer donc ce choix français. Et donc leur hypothèse, leur thèse, c'est de dire que ça suit la pente... d'une tendance autoritaire au contrôle, etc., qui a été réutilisée pour le confinement.
Et ça c'est homogène sur le territoire ?
Alors non, justement, voilà, c'est pas du tout
ça,
homogène.
C'est un désastre aussi.
Alors, quand même, il y a un premier truc, c'est ce qu'on disait un peu en intro, il y a un événement un peu marquant et qui mérite d'être souligné, c'est que c'est pas homogène les contrôles selon le territoire, mais par contre, ce qui a été homogène, ce qui a été démocratisé, c'est ce qu'ils appellent eux la police pour tous. C'est-à-dire que là, tout le monde a pu faire les frais de contrôles policiers comme ça, et notamment dans les répondants aux questionnaires, ils mettent en avant ce qu'ils appellent un choc moral d'individus qui n'avaient pas du tout l'habitude d'être contrôlés, plus que verbalisés d'ailleurs, d'être contrôlés, et qui ont été contrôlés. Donc habituellement, on a quand même les statistiques du contrôle qui sont toujours des statistiques difficiles à avoir et pas communiquées, qui nécessitent une observation in situ, etc. Mais bon, bref, ils expliquent un peu tout ça dans le livre. Les femmes sont beaucoup moins contrôlées que les hommes.
Habituellement.
Ouais. Ce qui n'est plus du tout le cas avec...
Avec le confinement.
Les jeunes sont beaucoup plus contrôlés que ceux de plus de 30 ans.
On est sûr de ça ou pas?
Ouais.
On est vraiment sûr que les gens sont...
en termes normaux, tu veux... Oui, à peu près. Après, ça reste de la sociologie, on n'est sûr de rien, mais bon. mais oui, c'est assez solide là-dessus. Et pareil, pour tout ce qui est méthode, etc., ils sont super clairs dans le livre. C'est peut-être même un livre à mettre entre les mains d'étudiants là-dessus. Ils sont très efficaces.
Et donc, les vieux à la campagne et les femmes découvrent la police.
Voilà. Et ils s'en plaignent d'être infantilisés.
Y compris quand ils sont blancs.
Y compris quand ils sont blancs, donc les blancs de plus de 40 ans, de classe sup, sont des suspects potentiels. Voilà. Et c'est là que vient un peu le choc moral. Mais bon, faut pas non plus trop s'alarmer parce que les jeunes racisés restent quand même un peu plus soumis à une pression importante. Voilà. Donc ça rentre un peu dans l'ordre là-dessus.
Et en termes de verbalisation, de contrôle, etc., les chiffres, ils disent quoi là-dessus? Parce qu'on parlait aussi, tu sais, il y avait tous ces... Enfin, pendant le confinement et après, il y avait fait aussi tous ces infos qui tournaient sur le fait que tu avais des contrôles massifs dans les banlieues, dans les quartiers, rues, pieds des tours, etc., etc. Et ça dit quoi, du coup, du point de vue des chiffres?
Ce qu'ils mettent en avant, c'est que déjà, les chiffres du contrôle, ils les ont pas.
D'accord.
Ils peuvent pas les avoir.
Les PV, tu peux pas avoir ça, le nombre de PV
de ben, alors par contre, les verbalisations, ils les ont.
D'accord.
Ils les ont eu au bout d'un an et demi parce qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal. Il y a un journaliste, notamment, je me rappelle plus de son nom, qui est cité dans le livre, qui a bataillé un peu pour avoir ces statistiques-là. Et donc, justement, eux, ils font un indice qui est assez intéressant du rapport entre le taux de verbalisation pour le contrôle qu'il y a eu en place, quoi, en fait. Et alors, les contrôles...
Ah oui, c'est la sévérité du contrôle, en fait.
L'incidence, en fait, du contrôle.
Okay.
Le taux de verbalisation par contrôle, quoi, en fait.
Okay.
Et ils mettent en avant que, en fait, il y a eu des moyens assez énormes, on le verra peut-être un peu après, de contrôles qui ont été développés partout, mais vraiment partout. Et justement, là, même dans les campagnes, au bout d'une petite rue, on pouvait se faire contrôler, alors plutôt par la gendarmerie quand c'était dans les milieux ruraux, etc. Donc les contrôles ont été assez massifs par plusieurs moyens, etc. Par contre, c'est pas la même chose pour la verbalisation.
Okay.
Et l'intensité de la verbalisation, donc ils ont déployé toute une carte là-dessus, a été la plus forte en Ile-de-France, sauf à Boulogne et à Vincennes, je crois que c'était les endroits les moins touchés, mais en Ile-de-France, particulièrement en Seine-Saint-Denis et à Paris. Il y a eu énormément de verbalisation par rapport au nombre de contrôles. Donc il y a eu une sur-verbalisation, on peut peut-être dire ça comme ça, par rapport aux contrôles qu'il y a eu. Le bassin méditerranéen, les départements du bassin méditerranéen aussi. Et quelques départements.
Et pas dans le sud-ouest aussi, j'avais souvenir de trucs hyper, de chiffres hyper bizarres.
Ils ont fait tout un espèce de... ils ont fait un graphique aussi, pareil, que vous pouvez retrouver en ligne, qui compare en fait le nombre de verbalisations par rapport au nombre de contrôles pour 1000 adultes à chaque fois. Ce qui veut dire que donc en ordonnée, vous avez les verbalisations et en abscisse, vous avez les contrôles. Donc plus la pente est raide, plus... plus la pente est droite. et plus donc vous avez une verbalisation qui est sévère. Et on voit que les pentes les plus verticales, c'est pour des départements comme donc où le contrôle la verbalisation est la plus systématique, en fait, c'est ça, par rapport au contrôle. Vous avez la Seine-Saint-Denis qui arrive quasiment en tête.
C'est bon, on retourne sur nos pattes là.
On est sauf. Ouais. La Seine-Saint-Denis, Paris. Et le taux de verbalisation, là où les gens y échappent le plus, c'est quand même le Lot. En fait, le Lot, il y a énormément de contrôles, mais très très peu de verbalisation. Voilà. C'est quelque chose qu'ils mettent en avant. Au-delà de ce choc moral, il y a quand même une répartition inégale du poids des contrôles.
Et ils font des hypothèses là-dessus, l'influence des préfets.
C'est ce qu'ils mettent en avant. Ils parlent d'inquiétement, eux, en fait. Un des effets du déploiement énorme des moyens, c'est qu'il y a eu un inquiétement. Ce qu'ils appellent l'inquiétement, c'est l'insécurité qui a été construite par rapport au dehors, En fait, voilà, l'extérieur devient inquiétant, source de menaces, source potentielle de répression à chaque fois. Donc ça, il le développe pas mal. Et voilà, par contre, l'explication qu'ils en donnent, c'est que finalement, ce qui fait la pénalisation, c'est les contrôles. En réalité, plus que la désobéissance. Donc, finalement, les endroits où il y a eu le plus de verbalisation, c'est aussi l'endroit où le contrôle a été le plus systématique. Alors là, il y a un point qui est assez intéressant, parce qu'on pourrait se dire, comme le ministre de l'Intérieur de l'époque, bah non, en fait, s'il y a eu plus de verbalisation, c'est juste que les individus étaient moins obéissants. Et
Tu pourrais avoir d'autres pistes aussi, parce que si t'es dans un milieu urbain hyper dense, avec des logements foireux ou insalubres, il y a plus de chances que tu trouves des gens dehors que quand t'es...
Oui, mais donc ils ont été moins obéissants quand même, au final.
Oui, d'accord, mais ils sont moins obéissants, mais c'est pas juste un facteur psychologique ou voilà, c'est juste, ça peut aussi être des conditions matérielles comme ça. Tu peux t'attendre, oui, de fait, l'effet, c'est ça, quoi, mais c'est pas juste une espèce de rapport à la loi ou de rapport à machin. Tu pourrais imaginer aussi, tu vois,
d'avoir. Oui, alors bah là, on y viendra justement avec les profils, mais ils établissent 6 profils et paradoxalement. Parmi ceux qui sont le moins allés dehors, on verra un peu après, mais ceux qui sont moins allés dehors, vous avez soit les exemplaires, qui eux étaient plutôt dans des bonnes conditions, plutôt un rapport favorisé aux institutions.
Leïla Slimani, tenant son journal.
Eux, ils faisaient attention aux consignes, ils respectaient les consignes légales, et ils respectaient aussi les préconisations. Les recommandations en termes d'hygiène du gouvernement.
Et parce que le gouvernement sait ce qu'il fait.
Voilà. Oui, exactement. Mais, et c'est là où c'est intéressant, il y a un profil qui s'appelle les claustrés, qui eux aussi ont respecté plus que scrupuleusement la notion de rester chez vous. Ils ne sont pas sortis quasiment. Et les claustrés, il y avait une surreprésentation parmi eux de jeunes étudiants précaires en conditions matérielles hyper
dégradées. C'est sûr qu'on a déjà l'habitude d'être un peu inquiétés par l'extérieur, peut-être. De trouver l'extérieur inquiétant.
Alors il y a la question. Alors, pas nécessairement, en fait. Ouais. Voilà, justement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants. Après, ils posent quand même la question des jeunes racisés, en fait, où là, effectivement, eux, ils ont déjà un rapport plus inquiété et inquiétant aux forces de l'ordre. Mais c'est pas que eux justement. Beaucoup de ces claustrés sont des jeunes qui, par méconnaissance un peu des recommandations de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, en fait, par défaut, sont restés chez eux. Et c'est ceux qui avaient des conditions matérielles de vie les plus les moins agréables, en fait. Donc, voilà. En fait, d'une manière générale, ce qui conclut, eux, c'est que il y a eu un déploiement énorme de forces...
Gendarmes, police...
Alors, gendarmes dans les zones rurales, essentiellement, police dans les zones urbaines, et, par les consignes nationales. Et eux, ce qu'ils montrent... montre qu'il y a eu une espèce d'union sacrée quasiment systématiquement. Il y a eu une surenchère des réglementations nationales, un durcissement des règles nationales par les préfets et les municipalités.
En plus des consignes nationales.
Voilà, mais quasi systématiquement, partout.
Et ça, ils expliquent ça comment? Ils ont des hypothèses là-dessus?
Justement, c'est leur hypothèse principale, c'est la tendance... en fait, c'est la tendance assez... pas naturel, mais classique, qu'on connaît, tendances autoritaires qui sont mises en place dans les villes. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, il y a eu une surenchère énorme, donc interdiction de s'asseoir sur les bancs, interdiction d'accéder aux espaces naturels, de se balader sur les plages. À Montpellier, à un moment, il y a une interdiction hyper contrôlée par des drones, des patrouilles en vélo, à cheval, enfin bref, tout un tas de tactiques, des gendarmes qui ont été déployés pour...
C'est bon, elle l'a dit.
Et t'es pas Saint-Tropez pourtant?
Non, mais... mais
les Alpes-Maritimes, tu te rapproches.
Voilà, en fait, il y a eu... on s'est saisi du confinement pour traiter la déviance, comme on l'aurait traité.
Et on, ça, c'est vous, les préfets.
Voilà, et on, c'est les préfets et certaines municipalités en particulier, en fait. Donc après, ça, il ne l'explique pas plus que ça. On pourrait vouloir faire une sociologie des préfets,
des maires.
Voilà, ce serait intéressant. Bon, eux, ils ne l'ont pas fait. Mais voilà, donc il y a une répartition inégale du poids des contrôles. Et voilà, en gros, il y a eu deux grandes logiques policières qu'ils mettent en avant. Une logique de quadrillage, de présence partout, tout le temps. Qui vont faire créer ce qu'ils appellent l'inquiétement, et une logique de punition. Donc la logique du quadrillage, elle est très importante dans des lieux comme le Lot, la Sarthe, mais où paradoxalement il n'y a pas beaucoup de verbalisation. Alors que la logique de quadrillage est peut-être un peu moins par rapport à la densité de la population justement importante dans les endroits comme la Seine-Saint-Denis ou Paris, en termes de policiers.
Mais là, ça verbalise.
Mais ça verbalise beaucoup, quoi. Okay. Et donc, ils mettent aussi en avant des trucs comme des verbalisations sans contact. Donc, voilà, pour soutenir l'idée qu'il y a une continuation de ce qui se faisait, il y a des jeunes qui ont reçu 30 fois dans la même journée une verbalisation alors qu'ils n'ont pas eu de contact avec la police. Parce que, et ça se concentrait sur certaines rues, justement.
Du coup, c'est comment ? C'est-à-dire,
c'est-à-dire qu'en fait, sans sortir, des jeunes qui pouvaient être connus des services de police municipale qui ont eu le droit de verbaliser justement à ces moments-là, ont pu être l'objet de, d'acharnement peut-être un peu aussi, puisque finalement, au cours d'un mois, je crois qu'il y avait eu un jeune, il parle de ces témoignages-là, etc., qui a eu plus de 5000 euros, je crois, à payer finalement en termes de verbalisation, sans avoir eu de contact.
Direct avec des flics.
Pas aussi intense, mais avec la police. Donc voilà, l'idée qu'il y a une continuation un peu, qu'on a mis à disposition des forces de l'ordre et particulièrement aussi de la police municipale, qui a été particulièrement dure, visiblement, du pouvoir de verbalisation qu'il n'avait pas à ce point-là avant, quoi. D'ailleurs, dans ce sens-là, de la réglementation aussi poussée, il y a eu des réquisitions d'agents qui n'ont pas du tout de pouvoir, encore une fois, de verbalisation, des agents. De l'ONF, des gardes-pêche, des gardes forestiers, etc., qui ont été mis à contribution du grand contrôle, quoi, en fait, là-dessus, pour dissuader. Hein. C'est vraiment un objectif largement de dissuasion d'accéder aux espaces naturels. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que là où les contrôles ont presque été les plus forts, c'est dans les lieux vides, donc dans les espaces naturels, etc., où il y a eu beaucoup de moyens mis à disposition, drones, donc gardes-chasse... qui ont été particulièrement déployés. Voilà.
Après cet exposé du grand renfermement, cette fois-ci peut-être réel et non pas fantasmé par Michel Foucault, on va passer un petit morceau de musique.
Good. toute la journée je reste enfermé. Non, je n'ai pas envie de sortir. Tant qu'il y a assez d'air pour que je respire, sur mon lit je reste couché. Me quitter, sois persuadé que j'en serai peiné. Et un jour tu sauras le plaisir que j'ai pris pour m'endormir. Car toute la journée je reste enfermé. Non, je n'ai pas envie de sortir. Tant qu'il y a assez d'air pour que je respire, sur mon lit je reste couché.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans dénimètre et ni publicité. C'est Jeudi Noir
qui vous parle.
C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième et dernière partie autour d'un livre qui s'appelle L'attestation de Théo Boulaka et Nicolas Mariotte, ou Mario, je ne sais pas comment on dit, ouais, Mario, aux éditions Anamosa. Donc c'est Morane qui nous présente cette grande étude de
450 pages.
De 450 pages, mais tu l'as dit, très clair, très facile à lire, très efficace, nourri en chiffres, en données, et tout à fait, et même parfois drôle, tu l'as dit.
Parfois drôle et parfois un peu sarcastique, parce que quand même, on n'est pas totalement neutre, on est sociologue avant tout, mais mais non, il est très facile à lire en fait, long mais très clair en fait. Ouais. Ça mérite d'être clair sur.
Et il n'y en a pas tant que ça, hein, il me semble.
Il y en a très peu en fait.
Rétrospective là-dessus, alors que c'est quand même un événement assez inouï.
Il y en a très peu, et notamment il y en a très peu qui questionnent les mécanismes de construction de l'obéissance pendant le confinement. Ouais. Et donc là, un des mécanismes principaux, ça a été les moyens déployés et la création de ce que eux ils appellent un inquiétement. Mmh. Un inquiétement en rendant donc l'espace extérieur menaçant. Et pour eux, donc ils parlent, hein, ils chiffrent tout ça. Le livre est bourré de chiffres du déploiement de drones, d'hélicoptères, de caméras, voilà. Et pour eux, la dissuasion prend principalement deux formes. Une première forme, c'est la démonstration de force qui a été faite, et c'est là que ça devient un petit peu drôle parfois. Et la ruse aussi, donc les tactiques de gendarmes silencieuses et furtives qui sont mises en place pour...
sur la Côte d'Azur notamment.
Et sur la Côte d'Azur notamment, vers Montpellier, Chambéry aussi qui est cité, la montagne dans les espaces naturels beaucoup.
Toute cette Côte d'Azur là.
Ouais, toute cette Côte d'Azur.
Toute la région de Saint-Tropez.
Voilà. Pour traquer ce qu'ils ont appelé les poches de résistance aussi.
Les poches de résistance.
Ouais. Ça, donc, les poches de résistance, c'est un terme...
Avec des flics transformés en ninjas qui se cachent.
Exactement.
Un caillou, un bras d'herbe.
Et qui arrive en vélo ou en drone hyper silencieux pour crier partez d'ici, vous n'avez pas le droit d'être là, avec des haut-parleurs et des. Enfin bref, planqués sur les. Enfin, mis sur les voitures ou sur les drones qui peuvent balancer des messages comme
ça. Juste une petite parenthèse, il parle de la Chine un peu quand même ou pas?
Il parle de la Chine. Au tout début, dans la première partie, tu sais, d'accord, où ils font des comparaisons internationales. Alors, en disant qu'il n'y a pas eu de confinement national en Chine, en fait.
D'accord.
Il y a eu des confinements par province, etc. Ouais. Mais c'est difficile, il n'y a pas eu de confinement national. Alors, le confinement a été hyper sévère là où selon les provinces, etc. Mais là où il y en a eu, mais pas de confinement national.
C'était drone, tes haut-parleurs là, qui me faisaient penser à ça, parce qu'il y avait ces vidéos absolument terrifiantes, là où tu avais des tours, je ne sais plus dans quel... C'était pas à Shanghai, où tu avais des tours complètes avec des gens en train d'hurler aux fenêtres, et puis où tu avais des chiens, des robots, robots chiens dans les rues, en train de rentrer chez eux.
Oui. Enfin, justement, quand on lit le livre, sur la question de la France, c'est drôle ou pas drôle, mais on voit des scènes un peu bizarres, un peu cauchemardesque comme ça, où justement il parle de dans le Var, une voiture de police avec enceinte sur le toit qui adresse des messages aux personnes en disant une verbalisation de 135 euros sera adressée à toute personne ne respectant pas la mesure de confinement, rentrez chez vous. Ou alors des haut-parleurs accrochés sur des hélicoptères qui jusqu'à 1500 voire 3000 mètres diffusent un message intelligible. Ils disent que c'est pas sans rappeler la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais que des dispositifs comme ça ont été, notamment dans les espaces naturels. Voilà, okay. Les zones protégées, les espaces naturels où il y a le moins de gens. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent la démonstration de force. Et puis, il y a aussi eu la ruse où l'objectif, c'est d'user du silence et de la surprise pour rendre les lieux justement inquiétants. C'est ce qui s'est beaucoup utilisé en Charente-Maritime, en Ardèche, donc des patrouilles à vélo. Et il souligne de manière un peu ironique que, par contraste, le bilan de la manœuvre apparaît bien pauvre, en fait. Donc, dans les boîtes Courset, c'est une personne qui recherchait des métaux avec un détecteur de métaux qui a été attrapé, sur Toxigny, un jeune enfant qui pêchait seul sans autorisation. Mais voilà, bilan, verbalisation très, très faible.
Et tu disais du coup que ça leur permet aussi de définir des profils, en fait, d'obéissance. C'est aussi un des enjeux
du bouquin. C'est un des enjeux intéressants du livre. Ouais. Finalement, quand on aborde la question de la soumission à l'obéissance, eux, ils établissent six profils, en fait. Ce qu'ils appellent lignes de conduite. Ils partent déjà de l'idée que, quand même, il y a 80% des répondants, en tout cas, donc on peut extrapoler dans les de la population française, qui s'est prêtée au jeu, qui a respecté les règles, globalement. Après, dans cette manière de respecter les règles, il y a eu avec plus ou moins d'assiduité et de rigueur. Donc, en gros, peut-être le profil qui est le plus étonnant, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est le profil des claustrés. Les claustrés, ils représentent selon eux 20% donc des répondants, on pourrait dire de la population.
C'est pas rien.
Et donc les claustrés, alors, pour établir ces profils, ils ont posé des questions sur le rapport aux recommandations. Est-ce que vous respectiez le masque systématiquement, parfois, jamais, etc. Bon, ce genre de choses-là, se laver les mains, désinfecter les surfaces, les courses, etc. Donc tout un tas de questions sur le rapport aux recommandations. Et deuxième série de questions, c'est sur le rapport aux interdictions. Est-ce que vous sortiez toujours parfois jamais avec vos attestations? Est-ce que vous les falsifiez toujours parfois jamais? Est-ce que... voilà. Donc ça, ça leur permet d'établir six profils. Pareil, ils font un tableau où c'est assez clair. Et l'objectif de ces six profils, c'est de savoir si l'obéissance, elle était plutôt fondée sur une peur de la police, finalement. Est-ce que c'est ce mécanisme d'inquiétement qui a été efficace? Ou est-ce que c'est sur une peur du virus? Parce que ça pourrait être tout simplement ça aussi. Et donc, ces six profils-là permettent un peu de comprendre... Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi que les six profils sont fondés juste sur des pratiques lié au confinement. C'est que ça, en fait. C'est que fondé sur ces questions-là. Et après, on observe effectivement un recoupement de variables socio-démographiques assez intéressantes. Donc, les claustrés, c'est surtout des jeunes précaires qui ont un rapport avec les messages institutionnels un peu flous et donc qui ne savent pas très bien qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. Et par défaut, ils restent chez eux dans leur tout petit logement la plupart du temps, quoi. Donc, et ils sont très présents, ces claustrés, en Seine-Saint-Denis, notamment. Donc, où le confinement a été très bien respecté. Pas par obéissance, en fait, quelque part, finalement, mais par défaut d'information, en fait. Défaut de... un rapport à l'information un peu flou, en fait. Voilà. Bon, ensuite, on a une autre subdivision qui est intéressante, c'est celle entre donc ceux qui n'ont pas respecté le confinement, globalement. Ils établissent deux profils, les réfractaires et les protestataires. Donc, à eux deux, ils font environ 20% de la population, les réfractaires et les protestataires. Les réfractaires, c'est plutôt donc des hommes de 50-60 ans, population plutôt rurale, qui, eux, trichaient quasiment systématiquement et qui étaient donc mutins, mais mutins par une voie individuelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de protestation collective, etc. C'était plutôt une désobéissance d'ordre individuel et de refus des messages institutionnels, etc. Donc eux, ils ne mettaient pas le masque, ils ne respectaient pas les distances de sécurité, ils ne respectaient pas l'attestation, la plupart du temps, ils trichaient toujours, etc. etc. Donc eux, c'est ceux qu'ils appellent les réfractaires. Ces réfractaires, c'était plutôt des populations relativement âgées, en fait, étonnamment. Bon, voilà. Et peu diplômés aussi. C'est ça aussi une des variables essentielles, c'est que il y a une surreprésentation de peu diplômés, donc qui n'ont pas de diplôme du supérieur, en fait. Voilà. Et parmi les protestataires, donc qui ne respectaient pas toujours et qui protestaient, eux.
Ça, c'est les anti-vax.
Les réfractaires plutôt, anti-vax. Protestataires, c'est ceux qui sont plutôt diplômés et qui vont plutôt, en fait, adopter un comportement. Type action collective, même si c'est individuel, mais de huer les discours du président à la fenêtre le soir, de faire des casseroles, d'afficher des banderoles, etc.
Les anti-vax ont été aussi sur des actions collectives.
Oui, mais alors d'après eux, eux ils parlent pas. En fait, ils en parlent pas cette question, les anti-vax. C'est pas une question qu'ils abordent. Ils abordent vraiment que les pratiques du confinement. Okay. Mais dans ce qu'on connaît un peu des profils des anti-vax, même s'il est assez large, ça ressemblerait quand même. Je pense. Bon, ça, j'en sais rien. Ça, c'est moi, mais ça colle plus au profil des réfractaires, j'ai l'impression. Mais eux n'en parlent pas du tout. Donc voilà, réfractaire, protestataire, et ça fait référence à la manière dont on peut contester, en fait. Est-ce que ça va être plutôt individuel, un peu comme ce que montre Scott, ou est-ce que c'est des luttes collectives ou est-ce que c'est des luttes individuelles? Il y a. Donc Mario a aussi fait un livre avec Loez, justement, sur les mutins de 1917. Là.
Alors, André Loez, un historien André spécialiste Loez. De la Première Guerre mondiale.
Exactement. Et il reprend un peu ça en disant, finalement, il y a un peu la même scission qui se fait, où ceux qui étaient mutins version action collective sont plutôt des individus qui étaient issus de l'aristocratie, donc bourgeoisie, etc. Et ceux qui avaient plutôt des profils de désertion éventuellement, des actions individuelles de résistance, en fait, de non-soumission à l'autorité, plutôt classe populaire, etc. Mais là, on retrouve un peu ça avec les réfractaires et les protestataires. Bon, les autres profils, l'autre scission qui est intéressante, c'est celle entre les légalistes et les exemplaires, donc ceux qui respectaient le confinement. Les légalistes sont ceux qui respectaient les règles du confinement, mais pas les recommandations sanitaires. Donc, ce sont ceux qui n'avaient pas peur du virus, mais qui soumettaient l'obéissance par pure soumission à l'obéissance. Et enfin, les exemplaires qui respectaient à la fois les recommandations et les règles. Donc voilà, on voit des profils de soumission à l'obéissance assez variés, et qu'on obéisse ou qu'on n'obéisse pas pour des motifs à chaque fois relativement différents.
Ouais. Et ce qu'on dit après, donc c'est sociologique, hein, effectivement, ça l'approche. Parce qu'effectivement, t'aurais envie de poser des questions économiques aussi, politiques aussi, évidemment, derrière ça. Parce que ça, c'est les données factuelles.
L'incitation économique, des
avantages. Par exemple, etc. Voilà. Puis bon, oui, puis tu vois, la prise en charge aussi des revenus d'une bonne partie de la population, quel rôle ça a joué. Enfin, toutes ces questions-là. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne envie. Effectivement, l'un des intérêts, enfin moi je trouve ça passionnant là, tout ce que tu as présenté là, et c'est au moins c'est d'avoir une base sur laquelle déjà commencer à réfléchir, parce que
C'est un livre qui reste super solide dans sa méthode, dans son approche, dans ses résultats, dans la présentation des résultats. Il est très très solide et pas exhaustif, c'est sûr, mais il vaut vraiment le coup d'être lu pour ne serait-ce que pour démystifier un peu le discours qui a pu être mené sur l'obéissance
ou sur la désobéissance
ou sur la prétendue désobéissance des Français, des peuples du Sud, en fait. Voilà, on a cette question qui se retrouve pas mal là.
Voilà, c'était donc Jeudi Noir. Vous pourrez retrouver l'émission sur le site Gurdulu, et on vous laisse avec un petit morceau de nos chouchous belges, René Binamé.
sommes un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui nous entendons bien. Et nous travaillons tous soir et matin afin de gagner notre pain quotidien. Des secrétaires